Knicks are down by one. Irving, step back three.
Oh! Blows was crazy. The duop's greatest hip hop.
James. Hard drive. Oh, rejected. The pro just got the king.
The West W's in the air.
That's looking for the win. LeVert makes his move, drives in. Big shot is good.
Head nod, the thirsty ice grill. Who wants to get.
Hello Paris, bonjour Brooklyn, et oui c'est le quatrième podcast de Nets France de l'année 2019-2020, le deuxième en 2020. Avant de commencer ce podcast, alors on n'avait pas eu l'occasion lors du premier podcast, on va le dire quand même, c'est une année un peu difficile qui commence pour le basket, et nous en tant que fans avec déjà la mort de David Stern et puis évidemment celle de Kobe Bryant, sa fille et de cette autre personne dans l'hélicoptère, donc on a une pensée pour les victimes de ces terribles accidents. Sans transition, on va donc avoir un gros programme aujourd'hui dans ce podcast de Brooklyn Nets. On va commencer par évidemment faire un petit point sur les résultats de Brooklyn et sur la course aux playoffs. Ensuite, on va enchaîner sur l'effectif et un peu les ambitions de fin de saison. On sait que Kyrie Irving ne rejouera plus lors de cet exercice 2019-2020, ni Kevin Durant ne reviendra pas. Cette saison, il l'a confirmé lui-même. Et enfin, on parlera du coaching et de Kenny Atkinson dans cette dernière partie. Et certains émettent des doutes sur son coaching. Avec moi, bien évidemment, Thomas qui fait sa deuxième. Salut Thomas.
Salut Joe, salut Quentin, salut tout le monde. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois, ça fait toujours plaisir.
Et bien, plaisir partagé Thomas. Et puis avec Quentin, le fondateur de Nets France. Salut Quentin.
Salut les gars, salut Thomas, salut Joe et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, nombreux à chaque fois qu'on a l'occasion d'enregistrer des podcasts.
Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas en tout cas à réagir avec le hashtag NetsTalk. On lit vos commentaires à chaque fois et on essaie d'y répondre. Et en plus, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Messieurs, on commence donc sur les Nets, donc leur saison actuelle. Le bilan est de 26 victoires pour 30 défaites, donc toujours négatif. On est au lendemain de la défaite face au Orlando Magic, qui s'est jouée dans le Money Time, une défaite frustrante comme beaucoup des défaites des Nets en ce moment. Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de petit bilan des Nets en ce trois quarts de saison, on va dire?
Bah écoute, c'est un bilan mitigé, bilan fait de haut et de bas, de blessures à répétition, de beaucoup de commentaires négatifs par-ci par-là sur la qualité de l'effectif, du coaching. En fait, c'est très difficile de se positionner sur cette saison. On a l'impression qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On a du mal à gérer les money time, on a du mal à gérer nos matchs. Donc voilà, c'est vraiment, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec les Nets cette saison. Mais on rappelle qu'on a deux joueurs majeurs, voire les deux des meilleurs joueurs de la ligue blessés. Et que forcément, c'est plus difficile. Donc voilà, c'est un bilan mitigé. Je pense qu'on est à notre place, septième de l'Est. Ça me semble tout à fait correct au vu de l'effectif qu'on a. Cette défaite à Orlando, elle fait un peu tâche, mais voilà, on attend la suite et on a hâte quand même d'être à l'année prochaine parce que cette saison, elle est un peu galère.
Ouais, elle est hyper frustrante, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Quentin, parce que là, depuis le retour du All-Star Break, je trouve que y a une bonne alchimie dans le collectif. Je trouve qu'on retrouve quand même certains mouvements et certains plans de jeu qu'on voyait l'année dernière. C'est sympa à suivre. Et puis, sur la fin, comme toute cette saison, on s'effondre et on n'arrive pas à conclure ces matchs quand on est à plus 15, plus 17 ou encore hier face à Orlando à plus 19.
Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je vous rejoins. La défaite d'hier, elle est frustrante parce qu'il y a 19 points d'avance et qu'on laisse échapper un match encore qui nous tendait les bras. Maintenant, comme vous l'avez dit tous les deux, la saison elle a été faite de nombreuses blessures. On rappelle que Kyrie Irving a raté quasiment 30 matchs. Donc je crois qu'il a joué 12 matchs avec les Nets, hein, pour un bilan plus qu'est négatif sur quand il était là. On a eu Wilson Chandler qui a raté les 25 premiers matchs de la saison. On a eu Caris LeVert qui a raté un mois et demi de compétition. Enfin, il y a eu pas mal d'absents, donc ça excuse pas tout. Maintenant, c'est aussi ce qui fait qu'une saison est réussie ou pas, c'est la santé physique des joueurs. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est ce qui pose problème pour les Nets. Donc, effectivement, je rejoins Je rejoins Thomas, on est à nos places en fait. On est à notre place aujourd'hui. Enfin, l'an dernier, on fait 6 avec un effectif en bonne santé. Là, on est à 7 avec beaucoup de départs et puis des joueurs qui sont arrivés, qui sont blessés. Donc, c'est pas une bonne saison, mais c'est pas déconnant compte tenu du contexte.
Non, c'est clair, c'est pas déconnant. Alors, il a joué précisément 20 matchs cette saison, 20 matchs sur donc les 56 joués par les Nets. Donc c'est que dalle pour un joueur de cette envergure. Et comme tu le dis effectivement, et je pense que beaucoup de personnes oublient de le mentionner avec les Nets, il leur manque quand même leurs deux franchise players. Pour Kyrie Irving, on voit que c'est plus de la moitié de la saison, et Kevin Durant n'a même pas touché un ballon, n'a pas fait encore un match officiel avec les Nets. Et on ne parle pas de deux joueurs, voilà, on parle de Kevin Durant qui a son prime est peut-être le meilleur joueur du monde, et Kyrie Irving à son prime qui est un des meilleurs meneurs aussi au monde. Donc il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas dramatiser la situation. Sean Marks l'a dit en début de saison, ça va être une année de transition. Alors ils espéraient travailler avec Kyrie Irving, ce n'est pas le cas malheureusement, mais il fallait s'attendre à ça. Et l'objectif sont les playoffs, et après c'est que du bonus.
Mais après, là où je peux comprendre certaines critiques ou en tout cas certains doutes qui sont émis, c'est que les gens espéraient une certaine continuité par rapport à la saison précédente
Ouais, mais
où
tu
il y avait
changes beaucoup
eu
de
un
joueurs.
état d'esprit. Effectivement, mais le problème, c'est que les gens, ils attendaient ça. Ils attendaient que l'état d'esprit au moins soit le même, que cette envie soit également la même et que Kenny Atkinson continue à grandir dans son coaching. Mais le problème, c'est que eh ben, quand il y a un alignement des planètes qui n'est pas forcément bon, eh ben, on s'aperçoit que bah, c'est plus difficile. C'est ça la NBA. Hein. Il y a qu'à demander, c'est Quentin qui disait ça, il y a qu'à demander aux Warriors s'ils sont ravis cette année. Donc voilà, c'est difficile quand tu n'as pas tes deux meilleurs joueurs. C'est toutes les équipes du monde. Ce serait pareil en fait. Donc les critiques sont un peu difficiles, je trouve. Et cette continuité, elle y est, quoi qu'on en dise. Elle y sera l'année de la saison prochaine. Je me fais pas de soucis là-dessus.
Après,
C'est
si on veut
intéressant
aller
quand
plus loin,
tu.
les gars, sur les 8 derniers matchs, donc en gros, c'est la période de là, plus les 5 matchs avant le All-Star Weekend. On est 7e meilleure équipe NBA avec 5 victoires, 3 défaites, un offensive rating de 114,3 et un defensive rating de 102,9. Donc plus 11, plus 11,4 pour être exact, de net rating sur la période. Donc on est plutôt sur une bonne période et le résultat d'Orlando vient un peu gâcher ça parce que le résultat Orlando aurait mis les Nets en position d'être au même niveau qu'une équipe comme Houston ou Boston sur la même période en fait. Donc c'est vrai qu'on peut être déçu parce que la défaite à Orlando elle est frustrante encore une fois, enfin je le répète, mais on est plutôt sur une bonne période sportivement parlant. C'est
Mais
très étonnant avec le discours qu'on a en face en fait, faut juste appairer les deux.
en fait, il y a une forme de frustration, comme je le disais tout à l'heure, parce que même, mais je suis d'accord avec toi en plus, parce que hier, je n'ai vu que la première mi-temps du match contre Orlando, et je trouvais dans le jeu que c'était quand même agréable, ça bougeait, il y avait du mouvement, ça, les shoots rentraient même à 3 points. Je retrouvais un peu justement un peu les Nets qu'on avait l'année dernière, et c'était agréable. Maintenant, il y a cette frustration, et c'est la deuxième fois que je le répète là, de pas pouvoir finir ces matchs. Et on l'a vu avant le All-Star Break contre les Wizards, où on est largement au-dessus et on perd ce match de 6 points. On l'a vu contre les Raptors, où on perd d'un point alors qu'on aurait pu gagner cette rencontre. On perd contre les Sixers en prolongation alors qu'on aurait pu gagner cette rencontre. Enfin, on perd 112-104. Et hier, contre le Magic, qui est en plus un concurrent direct à la 7e place. Et avec une victoire, ça aurait pu nous permettre de nous rapprocher d'un bilan à 50%. Bah, on n'arrive pas à conclure et on perd bêtement la rencontre. Et on ne nous met pas, pardon, dans des très bonnes conditions, pardon.
Ouais,
Donc,
mais après, à qui
c'est
donnes-tu les
frustrant.
ballons dans le money time? Dans n'importe quelle franchise, à qui tu donnes les ballons dans le money time? À tes franchise players. Aujourd'hui, eh ben, tu les as pas. Donc, tu donnes ton ballon à Dinwiddie, qui fait une saison au-dessus des attentes, je pense, de la plupart des suiveurs des Nets. Et puis après, une fois que Dinwiddie il est défendu, tu as Levert qui arrive à tirer son épingle du jeu. Mais C'est pas pareil, c'est pas pareil. En fin de match, normalement, les ballons, eh ben, ils seront à Kyrie Irving, à Kevin Durant. Et crois-moi qu'on va en gagner des matchs dans le Money Time.
Ah non,
Parce que
ça, j'en
Kevin
doute pas, hein.
Durant, personne ne va le défendre. Donc voilà, mais c'est ça aussi. Il y a des joueurs qui apprennent. Levert, il est tout jeune, hein. Il apprend, Dinwiddie, il n'est pas si vieux que ça. Il a peu d'expérience à ce niveau-là. Donc voilà, ils apprennent. Le coach, c'est un jeune coach. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un jeune coach qui a de l'avenir, je pense. Après, on en parlera plus en détail, mais voilà. Je pense qu'il faut être patient. C'est difficile. On en parlait dans le dernier podcast. Il faut être patient.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a un mieux quand même collectivement, alors qu'il malheureusement qu'il concorde avec la blessure un peu de Kyrie Irving, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même du mieux, je trouve. Je trouve que c'est plus fluide. Je sais pas, Quentin ou Thomas, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais
Vas-y,
y a du
Quentin.
mieux, il y a du mieux, c'est évident. Et c'est aussi. Alors, j'ai pas envie de mettre ça sur le dos de la blessure de Kyrie, parce que pour moi,
Ah non, pas du
c'est
tout.
pas ça. Mais par contre, on sent depuis quelques matchs que Kenny Atkinson a trouvé une stabilité dans ses
Ouais, c'est
rotations,
ça.
dans son effectif, dans le fait que, comme disait Joe Harris, je crois que c'est après le match contre Orlando, cette saison, pour les joueurs aussi, elle a un goût d'extrême frustration, parce qu'en fait, ils ont l'impression d'avoir quasiment jamais été au complet. Kyrie Irving blessé en pré-saison, Wilson Chandler, je vous dis qu'il rate les premiers matchs, Caris LeVert qui se blesse au moment où il est en train de sortir un peu la tête de l'eau. Enfin, on voit des joueurs comme Kuruc qui ont sombré. Bon, c'est ça, c'est ses problèmes extra sportifs de cet été, je pense, qui jouent énormément là-dedans. Je pense qu'il faudrait regarder combien de fois Kenny Atkinson a eu son effectif au complet, sans Kevin Durant, hein, parce que lui on ne comptait pas dès le début de saison, au complet et en bonne santé cette saison. Je pense que s'il y a 5 matchs, on est bien. Et je pense que
Alors,
ça joue dans les automatismes, mettre en place une défense, parce qu'on sait qu'il y a une complémentarité à trouver entre les joueurs. Et aujourd'hui, tu ne la trouves pas avec tant d'absents, parce que tu fais du bricolage.
je suis peut-être le porte-bonheur des Nets parce que le match où j'avais été au Barclays Center contre les Lakers, le roster était complet. Il manquait juste Kevin Durant, mais j'ai pu tous les voir, hein, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Caris LeVert, ils étaient tous là. Donc peut-être que je devrais plus souvent aller à New York. Mais bon, après collectivement, effectivement, on voit qu'il y a un peu de mieux. Individuellement, quel joueur vous voulez un peu sortir du lot de cette période, de ce début d'année, positivement ou négativement, hein?
Bah, moi j'ai envie d'insister sur Dinwiddie. Alors c'est pas tant ses performances parce que ces derniers temps effectivement il score pas autant. Mais par contre il y a quelque chose que je trouve très très appréciable, c'est qu'il distribue beaucoup plus. Et ça c'est ce qu'on attend aussi d'un meneur. Il implique ses coéquipiers. Il arrive à lâcher des ballons quand avant il aurait été faire une pénétration ou aller tenter un layup difficile. Voilà. Là, je trouve qu'il se distribue bien. Il essaye d'impliquer au max ses coéquipiers. Et ça se voit d'ailleurs, les premières mi-temps, c'était très souvent qu'il est quasiment à 6 ou 7 passes. Donc c'est bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc moi, j'insisterai sur lui. Je trouve qu'il a trouvé son style. Il a trouvé comment être aussi efficace auprès des autres joueurs. Donc c'est bien. C'est bien.
On a l'impression effectivement qu'il force moins dans ses shoots même. C'est beaucoup plus
Carrément.
naturel. Mais après, j'ai l'impression qu'il était aussi en sur-régime avant le All-Star, enfin, dans cette période du mois de décembre-janvier, parce que Caris LeVert aussi était blessé, Kyrie Irving était blessé, il était vraiment tout seul avec Jarrett Temple et Joe Harris. Donc il avait l'impression de devoir tout faire et à la fin, c'était abusé, quoi.
Ouais, et puis je pense qu'au fond de lui, il visait aussi son premier All-Star Game, ce qui serait logique. Il a été dans la course pendant très longtemps avant un petit passage à vide, mais il était dans la course et forcément, il a dû se dire, bah, ce serait mon premier All-Star Game, si ça se trouve, ce sera le seul. Donc, je vais essayer de faire le maximum pour y être. Le problème, c'est qu'il a, comme tu as dit tout à l'heure, il a forcé beaucoup et quand tu forces, bah, ça marche moins.
Et heureusement qu'il a une bonne condition physique, hein, parce que l'année dernière, on sait qu'il a été blessé pendant de nombreuses semaines, la saison dernière, et là, cette saison, rien à signaler. Alors, on ne va pas lui porter l'œil, vu
Voilà, on
les nets.
touche du bois parce que.
Voilà. Quentin, toi, qu'est-ce que tu en penses de Dinwiddie? Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu le vois plutôt dans les aspects positifs des nets?
Je trouve que sa saison elle est mitigée parce qu'effectivement on lui a peut-être beaucoup tiré sur la corde, mais il y a quand même eu beaucoup de choix qui n'étaient pas très judicieux de sa part. notamment sur des fins de match où je trouve qu'il a tendance encore à trop forcer et à beaucoup râler sur les arbitres. Il peste énormément et je pense que c'est aujourd'hui son plus gros défaut parce que ça coûte des points aux Nets et j'ai tendance à penser qu'un joueur, plus il râle sur les arbitres, moins il aura de fautes pour lui. Donc j'aimerais bien qu'il corrige ça. Maintenant, effectivement, il fait une grande saison. Je trouve pas illégitime qu'il soit pas au All-Star Game. Parce que pour moi, il y a des joueurs qui sont au-dessus de lui. Quand on prend les meneurs qui y sont, que ce soit Kyle Lowry, que ce soit Trae Young ou Kemba Walker, pour moi, c'est au-dessus de lui, sans débat possible.
Ah putain, et Bradley Beal aussi, qui n'a pas été convoqué,
Et
donc.
voilà, et effectivement, Bradley Beal, qui lui n'est même pas convoqué. Donc pour moi, il est encore un cran en dessous ces joueurs-là. Ça n'enlève pas sa qualité et le fait que sans lui, la saison aurait été autrement plus difficile. Maintenant, tu parlais aussi de points un peu négatifs, hein, de joueurs à mettre en avant, entre guillemets, négativement. Moi, il y en a deux qui me déçoivent cette saison pour des raisons complètement différentes. Le premier, c'est Joe Harris. Mais encore une fois, comme Julien le disait très bien dans son papier sur le match d'Orlando, Joe Harris, il est pour moi sous-utilisé dans cette équipe, notamment contre Orlando, où il prend 3 shoots à 3 points, il fait 2 sur 3. Spencer Dinwiddie en prend 10. Voilà, pour en mettre 4. Aujourd'hui, je pense qu'il y a le gros problème qu'on peut retirer, je pense, des Mavs, c'est la répartition des shoots qui me paraît des fois un peu disproportionnée. Quand je vois par exemple que Garrett Temple prend plus de shoots à 3 points que Joe Harris, alors qu'on sait très bien que les pourcentages sont moins bons. Enfin, y a
Mais
des
comment
choses.
t'expliques ça alors?
Mais je pense qu'il y a deux choses. Déjà, peut-être que Joe Harris est bien gardé, bien défendu, donc peut-être qu'il est un peu plus sur la réserve. Il y a aussi le manque de systèmes qui sont appelés pour lui, et ça, je pense que c'est aussi la responsabilité des meneurs. Et je pense aussi que Joe Harris a une personnalité très discrète et qui c'est peut-être pas le joueur qui va s'affirmer le plus et qu'il a besoin du collectif pour briller. Et comme on disait que le collectif était défaillant du côté de Brooklyn, vraiment d'un point de vue comment dire automatisme, je pense qu'il empathie de ça. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous, et pour moi, le deuxième joueur sur lequel je suis un peu déçu, c'est Torian Prince. Donc pour des raisons complètement différentes, parce que lui au contraire il a des shoots qu'il met pas, il a aussi moins d'impact défensivement qu'il a eu en début de saison où il était très très intéressant, et ils sont tous les deux sur le poste 3 et 4 qui sont des postes où il y a une forte opposition à NBA, et autant Joe Harris a un côté très col bleu, c'est-à-dire qu'il défend, il fait le boulot et il prend ce qu'on lui donne offensivement. Autant Torian Prince, j'ai l'impression que il est un peu moins dedans depuis quelque temps et que lui, par contre, dessert vraiment l'équipe.
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Torian Prince, ouais, c'est fait de haut et de bas. C'est on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Ouais, il a du mal. Il a du mal. Pourtant, c'est vrai qu'il a pas mal de systèmes pour lui. Hein. Il sait souvent que le ballon il ressort. Il est à 3 points ouverts et il va pas les mettre. Il y a des matchs où il est pas mal, mais le problème c'est que c'est trop rare par rapport au nombre de matchs où il passe à côté. Et après sur Joe Harris, effectivement. Trop peu de système. On l'avait vu pourtant, il finissait de plus en plus près du cercle. Je trouvais ça hyper intéressant. Je me suis dit, ouais, c'est pas juste un joueur qui shoote à 3 points, c'est bien quoi. C'est bien d'être un joueur extérieur, d'avoir un système en catch and shoot, un peu à la Klay Thompson où il n'a pas besoin de dribble. Mais le fait de finir près du cercle, il sait le faire. Il l'a fait super bien sur le peu de matchs où il a eu ces systèmes-là pour lui. Donc, on est d'accord, manque de système pour Joe Harris et Torian Prince, ouais, pas convaincu. Je suis pas
Tu
convaincu.
rajoutes hier et il fait 5 assists, hein, Joe Harris. Donc il prend peu de
Voilà,
shoot. Par
donc.
contre, il a aussi une vraie qualité de passe. Maintenant, comme tu dis, ça reste pour moi une des meilleures menaces extérieures de la ligue. Son concours à 3 points d'ailleurs est pas mauvais du tout. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser à sa juste valeur. Vraiment. Enfin, j'insiste vraiment dessus parce que c'est choquant en fait qu'on n'arrive pas à aller là-dessus.
Ouais, non,
Et dans
mais
le dernier podcast, je disais, ouais, surtout ne pas lâcher Joe Harris, c'était pour moi indispensable de le garder et je continue à le penser. C'est ce genre de joueur qui te fait du bien dans l'effectif quand t'as un peu de mal. Et comme tu as dit, Quentin, il est discret, il fait pas de vagues, il fait ce qu'on lui demande, toujours avec application et il le fait plutôt bien. Donc c'est parfait dans ce genre d'équipe.
D'ailleurs, il disait un peu plus tôt dans la semaine, Joe Harris, on lui a demandé est-ce qu'il espérait re-signer aux Nets, et il a dit, mais bien sûr, pourquoi j'aurais pas envie de jouer avec ces mecs-là? Donc on sait qu'il est free agent, donc on aura des droits Bird, mais je crois que c'est l'early. Donc on pourra lui proposer quelque chose qui est aux alentours de 9-10 millions, pas beaucoup plus. On sait que la free agency est pauvre. C'est un joueur qui peut clairement toucher 15 patates, je pense, cet été. Maintenant, est-ce qu'il serait peut-être pas temps aussi de lui donner un peu plus de responsabilité en attaque en disant bah, l'année prochaine, on compte sur toi, donc reste avec nous. Parce que là, je pense que ne pas lui donner ces ballons-là, c'est aussi le. Alors, je dis pas que c'est un lien direct, mais s'il ne se sent pas suffisamment important et impliqué dans l'attaque des Nets cette année, qu'est-ce que ça sera l'an prochain? Donc, je pense que ça peut aussi être un frein pour une resignature. J'aimerais bien qu'on l'incite un peu plus bah, à avoir un vrai impact offensif.
Je m'étonne. L'année prochaine, effectivement, avec si on imagine avec Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, ça va être difficile pour lui de s'imaginer se faire une place. Mais bon, moi, je suis assez d'accord avec vous. Et j'avais remarqué aussi Thomas, effectivement, je trouvais qu'il allait de plus en plus au cercle et je trouvais ça hyper intéressant qu'il fasse ça parce que je voyais un peu un autre aspect de son jeu. Et en plus, je le trouvais assez physique, assez efficace, assez mobile. Donc, j'aimais bien ça. Et ouais, je trouve que les Nets ne jouent pas assez pour lui. Et en revanche, je trouve qu'il tire beaucoup sur la corde avec Torian Prince. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant de temps de jeu. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant de tirs alors qu'il ne montre pas une grande efficacité. On a vu récemment la NBA, ils ont publié une image avec les joueurs les moins efficaces. Selon les spots de shoot, et Torian Prince fait partie de ces joueurs à 3 points sur le côté, je crois, qui fait partie des joueurs les moins efficaces, même le joueur le moins efficace dans une certaine zone en NBA, quoi. Donc j'ai du mal à comprendre qu'il ait autant de responsabilités. L'année dernière, enfin, en début de saison, j'étais franchement satisfait le fait qu'il re-signe avec les Nets. Je le trouve décevant, quoi. Depuis maintenant, ça fait 3-4 mois. Je le trouve très décevant, notre ami Torian Prince.
Mais ça s'explique par une simple raison. T'as pas Kevin Durant donc, qui peut jouer 3-4, mais qui jouera sans doute 4. Et puis derrière, tu as Wilson Chandler, qui au moins je trouve mais
Ah ouais.
inutile. Alors, je suis peut-être dur, hein, mais honnêtement, il est où le guerrier qu'on connaissait? Enfin, je sais pas. Je sais plus sur quel match il passe à travers. Et j'étais sur ce match-là pour faire le résumé. Et je me suis dit, mais à quoi il nous sert? À quoi nous sert ce gars?
Non,
Alors, il y a des matchs où ça
pour
va
aller même
aller,
dans
mais.
ton sens, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend un Wilson Chandler et qu'on l'a gardé surtout alors qu'il a raté un quart de la saison, alors que tu aurais pu aller chercher un Marquis Morris qui a été coupé par les Pistons et qui, je trouve, franchement, est hyper intéressant dans un collectif. Et on le voit statistiquement, qui est même meilleur que son frère dans bien bon nombre de catégories, quoi. Donc, j'ai du
Bah, de
mal
base, c'est
à.
un meilleur joueur, hein.
Ah
De
oui, non,
base,
mais
c'était un meilleur
largement.
joueur.
J'ai du mal à comprendre vraiment cette obstination qu'on a eue avec Wilson Chandler, qui est, mais comme tu le dis, mais d'une inutilité dans le collectif des Nets. C'est frappant.
Quentin, il va peut-être nous tempérer un peu, je sais pas s'il est d'accord.
Non, bah, je peux pas vous dire que je le trouve bon. Maintenant, j'ose me dire que c'est un joueur que Kenny Atkinson connaît parce qu'il l'a eu à New York. Et du coup, je me demande si c'est pas pour ça en fait qu'on l'a gardé et surtout qu'on a été le chercher. Parce qu'on sait que Kenny Atkinson a beaucoup fait marcher son réseau quand il est arrivé. Et c'est lui qui a demandé Jeremy Lin par exemple. Il est pas non plus. Il fait aussi partie des gens qui ont réclamé Iman Shumpert quand on l'a pris. Je crois que c'est 10 jours qu'on l'a signé pendant l'absence de Kyrie Irving. Enfin, je me souviens plus exactement. Je pense que Wilson Chandler n'est pas un mauvais joueur. Maintenant, il en pâtit aussi de tout ce qui peut manquer autour de lui. Je pense que les 25 matchs de suspension, même s'il s'est entraîné pour essayer de combler ses lacunes, physiquement, ça doit être compliqué. On a beau dire sportif de haut niveau, l'entraînement, machin, tout ça, il n'y a rien qui remplace les matchs. Et je pense que
On
ça
le
joue
voit avec
beaucoup.
Oladipo d'ailleurs.
Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, le système des Nets, enfin, je regardais, on a une pace qui est très importante. Est-ce que ça convient à un vétéran comme lui de répéter les efforts de course alors qu'on était plutôt en début de saison une équipe qui avait une pace assez basse? Donc voilà, est-ce que c'est
C'est
toujours
même
pareil?
défensivement, c'est même au rebond. Enfin,
Après, ça n'a jamais
franchement.
été un joueur qui a beaucoup d'impact au rebond, hein. Je trouve que c'est plutôt un joueur qui défendait dur sur l'homme.
Bah ouais, mais
C'est là où on
moi je
l'attend
trouve
et
que
qu'on l'a
franchement
pas
il
par
est
contre.
apathique au possible, quoi. apathique au possible.
Et pourtant, souviens-toi de son match. Alors, le dernier match qu'il fait, je sais plus contre qui, où il fait deux ou trois super défenses en fin de match. Je me demande si c'est pas
Peut-être
les.
Indiana, non?
C'est peut-être Indiana où je pense où ses dernières défenses sont vraiment excellentes. Où il se jette pas, il recule avec le joueur, il lève juste les mains et on récupère des ballons. Et ça doit être Indiana parce que c'est, je crois que c'est le match où Dinwiddie met
Ouais,
le panier de la gagne.
exactement.
Et il fait un super match pour moi sur ce match-là. Après, malheureusement, effectivement, je pense que c'est difficile de dire que c'est un joueur qui ne sert à rien. Je pense que c'est un joueur qui, cette saison en tout cas, n'est pas régulier dans la performance. Mais il est tellement, c'est tellement pas un cas isolé que c'est difficile de leur jeter la pierre, je trouve. Alors effectivement, il sera peut-être pas gardé la saison prochaine. Je pense que on ferait bien de s'orienter vers d'autres types de vétérans
C'est la
avec.
question que j'allais te poser. Il a signé que pour une saison, hein,
Il a
Wilson
signé
Chandler.
qu'une saison au contrat minimum vétéran, hein, donc
Ah,
y a aucun
d'accord.
engagement sur ce joueur-là. Le seul joueur qui a potentiellement un engagement sur l'année prochaine, c'est Garrett Temple qui a une player option à 5 millions.
Et que je trouve très intéressant. Moi,
Ouais,
j'aime
pareil.
bien Garrett Temple.
Pareil, en sortie de banc, il met ses 3 points. Je trouve qu'en plus, il amène. Il se fond bien au collectif des Nets. C'est ce que vraiment. Ce que veut dégager en tout cas les Nets, quoi. Il aurait pu largement, par exemple, s'incorporer à l'effectif de l'année dernière.
Et il faut savoir
C'est
que
Kyrie
Garrett
Irving
Temple,
qui le voulait. Hein.
voilà, c'est ce que
Kyrie
j'allais
Irving, il a dit,
dire.
ce gars-là, il reste parce que j'ai joué contre lui et il est très, 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 très dur à jouer.
Mais d'ailleurs, on voit sa défense quand il est en mission sur un joueur en défense, Garrett Temple, on sait pas le défenseur du siècle, d'accord, mais c'est très très sérieux. Et aujourd'hui, oui, comme disait Thomas, c'est Kyrie Irving qui a dit, attention, ce mec-là, j'arrive pas, enfin quand je joue contre lui, j'en chie. Donc bah faites-le venir, moi je veux bien qu'il vienne avec moi. Et il y en aura d'autres des joueurs comme ça, parce que je sais plus quel journaliste d'ESPN ou de TNT disait ça il n'y a pas longtemps, le recrutement des Nets pour l'été 2020 a déjà commencé. Parce que des joueurs comme Kyrie Irving, comme Kevin Durant, savent déjà avec qui ils ont envie de jouer. Ils savent déjà qui ils vont essayer de convaincre, dans les joueurs avec qui ils ont joué ou dans les joueurs qu'ils apprécient. Il faut savoir que les joueurs se connaissent quasiment tous. Et un des noms qui est ressorti, et ça va, je pense pas vous étonner, c'est celui de Serge Ibaka.
Je suis pas étonné.
Voilà.
Non, je suis pas étonné. Et puis vu ce qu'il nous met à chaque fois dans la gueule, pardon pour l'expression, mais
Parce
qu'est-ce qu'il
que
est fort contre nous?
aujourd'hui, Serge Ibaka, alors on peut être fan ou pas du joueur, etc. Bon, moi, je ne suis pas un fervent défenseur de Serge Ibaka, mais je trouve que c'est un profil qui conviendrait bien. Mais alors, je trouve qu'il conviendrait bien en addition de Jarrett Allen et de DeAndre Jordan pour plusieurs raisons. Déjà, un, il peut jouer poste 5 à côté de Kevin Durant, mais il peut aussi jouer 4 à côté de Jarrett Allen ou de DeAndre Jordan et permettre à KD de jouer 3. Vous voyez,
Ouais.
je trouve qu'il a
Ouais.
une sorte de polyvalence qui,
Bah, il a un
maintenant.
shoot en plus, hein, Serge Ibaka. Il shoot à 3 points.
Et il a un shoot à 3 points qui est plutôt fiable.
Hein.
Aujourd'hui, il comblerait pas mal de lacunes. Maintenant, là où les Nets vont avoir un souci, en tout cas si on garde la masse salariale actuelle, c'est au niveau de l'argent qu'on peut lui donner. Savoir qu'on aura la mid-level exception, mais comme on est une équipe qui, en gros, a joué les playoffs, ou de mémoire, c'est ou une histoire de playoffs ou une histoire de luxury tax, en gros, elle s'élève à peu près 6 millions. Voilà, contre 9 pour des équipes qui, eux, ne payent pas la taxe. Ce qui est logique, hein,
Ouais.
faudrait pas abuser non plus. Maintenant, est-ce que Serge Ibaka accepterait cet argent-là? Là, je suis un peu plus sceptique, en fait.
Ah, moi aussi, hein.
Joe Tsai, il avait dit en tout cas il y a quelques semaines qu'il n'hésiterait pas à aller dans la luxury tax, quoi, de payer la luxury tax. Donc,
Bien sûr, mais c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui proposer un plus gros contrat que ça.
ouais, bien sûr.
C'est ça, en
Mais
fait. La
c'est.
limite, elle est vraiment là. Ou alors, il faudrait un sign and trade, incluant peut-être, je ne sais pas, Torian Prince, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudrait que. Il faudrait par exemple que Toronto accepte de récupérer Torian Prince. Je ne pense pas que Masai Ujiri soit assez fou pour accepter ce genre de sign and trade. Mais en tout cas, Serge Ibaka, avec la mid-level exception qui rejoindrait son pote Kevin Durant pour aller chercher une bague, je dis pas non. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur choix qu'on puisse faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le papier, comme ça, en addition pure et dure, je pense que ça a plutôt de la gueule.
Non, je suis
Ouais, et puis
d'accord.
sur Serge Ibaka, je sais plus, c'est Thabo Sefolosha qui était avec lui, donc du coup au OKC aussi, avec tous ces gars-là, Durant, Westbrook. Et il disait, alors je sais plus où est-ce qu'il disait ça, mais j'avais entendu qu'il avait dit que la plus grosse erreur d'OKC à cette époque, c'est d'avoir lâché Ibaka plutôt que Westbrook, par exemple. Donc ça classe un petit peu le gars, je pense que c'est un super défenseur. C'est un super défenseur et ça ne peut pas faire de mal dans une équipe où avec Kyrie Irving, il va y avoir des manquements défensifs, on le sait déjà. Levert, il peut s'y mettre, mais voilà, ce sera avec parcimonie. Kevin Durant, c'est un défenseur tout à fait correct, hein, avec l'envergure qu'il a, il peut défendre, mais il faut un vrai, 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 vrai patron défensif. Et Serge Ibaka, c'est totalement ça. Patron de la défense.
Alors justement, on va essayer de. Vous avez fait un peu l'ouverture. On va essayer de parler donc d'effectifs et de fin de saison, parce que voilà, on a joué donc comme on l'a dit tout à l'heure, les trois quarts, deux tiers de la saison. Comment est-ce que vous voyez donc les 25 derniers matchs de cet exercice 2019-2020? Est-ce que vous voyez les Nets aller en playoff? Et avec quel résultat et quel positionnement?
Vas-y, Quentin.
Bon, déjà, je pense que imaginer 2 secondes que les Nets font pas les playoffs, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense que les playoffs sont quasiment atteints. Je vois pas les Nets se mettre à tanker, par exemple, pour se dire on garde notre pick vu qu'il est protégé à loterie. Je vois pas l'intérêt d'une équipe qui a les ambitions qu'on a l'année prochaine de faire ce genre de choses. Surtout que aller en playoffs permettrait de développer les joueurs qui vont jouer cette fin de saison. Donc je pense qu'on sera 7e ou 8e. Je pense qu'on n'ira pas gratter la 6e place parce qu'aujourd'hui les équipes au-dessus sont trop hauts. Maintenant, j'aimerais bien que cette fin de saison, elle serve aussi à faire des tests. J'aimerais par exemple qu'on teste Nick Claxton sur le poste 4, qui a un petit shoot à 3 points à développer et qui potentiellement pourrait amener quelque chose de complémentaire à Jarrett Allen ou d'André Jordan et amener de la taille et du rebond. J'aimerais par exemple qu'on essaye de relancer Rodion Kurucs, de voir s'il est capable de l'année prochaine d'avoir un vrai spot dans l'équipe. Et j'aimerais bien qu'on statue aussi sur cette fin de saison sur le cas Musa et Pinson, qui sont des énigmes complètes de cette saison, alors que l'année dernière ils vont jusqu'en finale de G-League. Et on voit des joueurs comme Chris Boucher par exemple, qui aujourd'hui a un impact à Toronto, alors que l'an dernier il était aussi en G-League. Donc j'aimerais bien qu'on statue là-dessus parce que. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais parmi les points, et vous allez me dire ce que vous en pensez juste après, et j'aimerais bien que les gens qui écoutent aussi, s'ils ont des avis là-dessus, ils essayent de. Enfin, ils nous donnent leur ressenti. Quand tu prends l'effectif des Nets en début de saison, tu sors le noyau dur et tu prends Kurucs, Pinson, Musa, Claxton, Chandler. C'est 5 joueurs, donc c'est 33% de l'effectif, où tu sais que tu n'as quasiment pas d'impact. Chandler est suspendu un quart de la saison. T'as un rookie. T'as un mec qui est en G-League qui a joué 10 matchs l'année saison d'avant, où je pense que de toute façon il est cantonné au poste de troisième meneur, mais t'es pas sûr qu'il puisse t'apporter quelque chose dans l'immédiat. Et t'as un mec qui a peut-être un peu de chance du coup, enfin qui a des gros problèmes extra-sportifs, et un qui n'a pas performé depuis qu'il est en NBA. Donc ça fait quand même beaucoup, je trouve. Si tu prends une équipe comme par exemple les Bucks ou les Sixers. Quoique les Sixers cette année c'est pas trop le cas, mais en tout cas les Bucks ont une profondeur de banc bien plus importante. Une équipe comme par exemple les Nuggets à l'ouest
Même les Celtics.
ou même les Celtics ont une profondeur de banc bien plus importante, et c'est peut-être le seul regret de cet été, c'est de peut-être pas avoir pris certaines décisions avec des Musa, avec des Pinson. Et effectivement, Pinson, je comprends la récompense de sa saison en G-League, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'est pas tiré aussi une balle dans le pied en manquant de profondeur sur l'effectif? Alors effectivement, on ne pouvait pas anticiper la blessure de Kyrie Irving, on ne pouvait pas anticiper la blessure de Caris LeVert, mais est-ce que ce n'est pas aussi le
Il y
but
a...
d'anticiper des blessures avec de la profondeur de banc? Moi, je pense à un mec comme Iman Shumpert qui n'est pas resté.
Exactement,
Je
exactement.
pense à David
Quand tu as le
Nwaba.
choix, bah,
La
David
saison
Nwaba,
des Nets,
malheureusement.
la saison des Nets, elle se casse la gueule au moment où David Nwaba se blesse. Parce qu'il était d'une énergie défensive, il arrivait à apporter offensivement, etc. Moi, je pense que c'est vraiment. Si demain on se retourne sur la saison et que l'on dit à quel moment c'est parti en vrille, je pense que dans mon top 3, il y a la blessure de David Nwaba, par exemple.
Bah, le problème aussi, ça, je suis d'accord avec 100% dans tout ce que tu dis, et le choix des Nets d'avoir gardé Théo Pinson ou Zan Moussa et avoir libéré Iman Shumpert, qui en 10 jours, franchement, faisait du très bon taf, hein, défensif, il mettait des shoots à 3 points, et je trouvais qu'en plus, il amenait ce véritable plus en tant que vétéran que n'amène pas un Wilson Chandler. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas cette décision et je trouve que justement dans cette fin de saison, il aurait pu vraiment nous apporter quelque chose pour en sortir de banc.
Ouais, c'est tout à fait ça. Iman Shumpert, c'est un des regrets que j'ai aussi, c'est pourquoi il n'a pas continué avec nous. C'est vraiment dommage parce que ouais, Theo Pinson, moi j'ai vraiment du mal. Quand je le voyais sur les matchs, je me disais, mais alors certes, il joue souvent les garbage time, bon, il a fait la doublure de Dinwiddie pendant un bon moment, mais on lui en demandait peut-être trop. Mais je pense qu'il est très très limité. Je ne le vois pas réussir un jour en NBA. Alors je suis peut-être dur, mais je pense qu'il n'a pas les qualités pour réussir en NBA. En G-League, c'est bien, il fait des cartons, ça marche bien, mais je ne suis pas sûr que la NBA ça soit pour lui. Moussa, je suis plus circonspect, je ne comprends pas. Il a des qualités, il a tout pour réussir, je pense, mais ça ne prend pas. Ça prend pas. Alors, est-ce que c'est lié à l'équipe? Est-ce que c'est lié au système d'Atkinson? Est-ce qu'il ne serait pas mieux ailleurs? C'est pas impossible qu'il aille voir ailleurs, en tout cas bientôt.
De toute façon, il est évident que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui vont sauter cet été parce que Kyrie Irving et Kevin Durant vont avoir envie de faire venir des joueurs avec eux. Alors effectivement, même dans le noyau dur, on parlait de... Alors parce que c'est peut-être ce moment où on va en parler, mais il y a des grosses rumeurs sur le fait qu'on serait prêt à mettre quand même dans la balance Spencer Dinwiddie, Caris LeVert et Jarrett Allen pour récupérer une troisième star. Bon, je vais peut-être commencer à faire du sarcasme, mais il faudra m'expliquer ce qu'on peut faire avec ces trois joueurs-là et qui va nous apporter réellement beaucoup plus. Mais...
À part pour moi, un gros sens, vraiment, une référence en NBA. Enfin, je ne sais pas, il y a eu un
petit problème de son, Joe, je crois qu'on t'a pas vraiment entendu, excuse-moi.
Ah, non, je répète, je disais simplement, imaginons, hein, même si c'est, on est totalement dans l'imaginaire dans tout ce que je dis là, mais s'il peut aller nous chercher un Joel Embiid qui est en odeur de sainteté du côté de Philadelphie pour libérer ses trois joueurs, bon, bah, moi je dis merci pour tout ce que vous nous avez apporté, mais quand tu peux récupérer un mec de cette stature-là, t'hésites pas, quoi. Et je pense que si tu dois récupérer une troisième star... C'est, pour moi, c'est vraiment pour le secteur intérieur qui en a besoin. Et puis, ça doit être une vraie référence en NBA, quoi. Un vrai plus à Kevin Durant et Kyrie Irving. Sinon, ça ne vaudra pas le coup.
Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que c'est prendre une autre star. En fait, c'est bien, mais empiler les stars, ça ne marche pas forcément. Il faut une hiérarchie dans tes stars. Tu prends, on va prendre, les Clippers, tiens, qui ont signé Paul George et Kawhi Leonard. C'est clair, la hiérarchie, elle est établie. Kawhi, Paul George, et après, t'as tous les autres.
Mais elle est claire aux honnêtes, là. C'est Kevin Durant, le patron.
Mais si tu mets... Je prends ton exemple. Joel Embiid, il acceptera jamais d'être deuxième ou troisième option, comme Kyrie Irving n'acceptera pas d'être troisième option. Donc, pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire ce gros trade-là. On a des joueurs hyper talentueux. Ils sont jeunes. Ils servent dans un roster, ils ont plein de qualités qui peuvent être complémentaires à Kevin Durant et Kyrie Irving. Pourquoi s'en priver? Vraiment, c'est à un moment, il faut aussi miser sur ce qu'on a construit, c'est important. Il y a une base qui a été créée, qui est vraiment solide, je trouve. Il faut continuer à bâtir dessus. Bien sûr, apporter des plus-values, ça sert. Empiler les stars, moi, ce n'est pas mon truc.
Oui, non, mais c'est de ce que tu dis vrai, mais je pense que c'était vraiment dans le cas où, si on devait faire un trade, je pense que moi, personnellement, ce que je viserais serait vraiment un gros intérieur, quoi.
Oui, on parlait d'Ibaka. Est-ce que l'apport d'Ibaka ne serait pas, tout aussi intéressant, voire dans le collectif, encore plus intéressant? Voilà, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Il faut vraiment arriver à trouver une espèce d'ossature solide et une osmose dans l'équipe parce que c'est ce qui va te faire gagner des titres. Regardons Toronto l'année dernière, ils ont un super joueur, un ovni avec Kawhi, mais derrière l'effectif, il était hyper structuré, hyper construit, hyper clair, les rôles étaient bien définis et il n'y a pas de mystère, ça fait gagner des titres. Les Warriors, c'était pareil.
Même les Raptors cette saison, hein. Franchement, voilà, je ne m'attendais pas à un tel niveau. Et regarde, il y a une vraie hiérarchie avec Siakam qui est franchise player Et derrière, tu as Siakam, derrière, tu as Kyle Lowry, même qui a été absent, OG Anunoby, Powell, enfin, tu vois, et pour le coup, et comme tu le dis, il y a une vraie hiérarchie et je te rejoins parfaitement là-dessus. Quentin, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté?
Bah déjà, moi, t'as donné un nom qui m'a failli me faire lever de mon siège déjà, parce que je supporterais pas de voir débarquer Joel Embiid de chez nous. Parce que je trouve que ce mec a un melon. Je pense que s'il y a des gens qui se plaignent de Kevin Durant et de Kyrie Irving, je pense que là on a atteint des sommets, parce que monsieur s'autoproclame meilleur joueur du monde alors qu'il n'est même pas le meilleur joueur de sa conférence. Et en plus de ça, je suis pas sûr que la mentalité du garçon soit compatible avec la mentalité des Nets en fait, et l'état d'esprit de la franchise. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous. Par exemple, un joueur comme Serge Ibaka, pour moi, coche plus de cases que Joel Embiid,
Que je vois les mille,
dans le sens où il est
dans le
plus
sens où il est
complémentaire
plus
que les
complémentaire.
autres. Maintenant, je pense honnêtement que signer une troisième star, c'est pas une bonne solution. Que les joueurs dont on parle, je pense à Caris LeVert, qui est d'ailleurs qui est une des causes de la meilleure défense des Nets cette saison. Parce que je trouve que c'est un joueur qui défend plutôt bien. Spencer Dinwiddie est un meneur titulaire dans 80% des équipes NBA. Je pense honnêtement que ce joueur-là en sortie de banc, c'est un luxe dont les Nets ne devraient pas se passer. Là où effectivement je peux entendre qu'on se pose des questions, c'est sur Jarrett Allen, qui malheureusement a du mal dans l'impact physique, malgré que ça soit sa troisième saison NBA. Mais très honnêtement, lâcher autant de joueurs pour une potentielle star. Je suis pas vraiment convaincu que ça soit la solution qu'on doit prendre, surtout que les Big Three disparaissent petit à petit. Tu prenais l'exemple de Paul George et de Kyrie Irving, on peut prendre pas Kawhi Leonard, pardon, tu peux prendre l'exemple d'Anthony Davis et de LeBron James. Ces joueurs-là ont pas dans l'optique de faire venir une troisième star, mais plutôt d'ajouter beaucoup de qualité sur des joueurs de complément pour les entourer. Et je pense que c'est ce que les Nets doivent faire. Dès cet été, pour pouvoir avoir les ambitions qu'ont les équipes qu'on vient de citer, par exemple.
Tout à fait d'accord. Je te rejoins à 100%.
Voilà, je suis
Ouais.
désolé, Joe. Moi, je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais j'en démordrai pas là-dessus. Je
Non, 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 mais moi.
j'ai beaucoup de mal avec le côté troisième star qui, selon moi, n'apportera peut-être pas grand-chose.
Moi, c'était plus. Je cherchais davantage, en fait, un très bon intérieur, quoi. Objectivement, moi, c'est ça qui me manque. Et je trouve que pour que les Nets aillent loin, ou en tout cas espèrent ambitionner quelque chose en NBA. Pour moi, c'est inévitable d'aller chercher un gros intérieur. Et alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si on peut aller chercher un Serge Ibaka, par exemple, ou un joueur en tout cas de cette stature-là, moi, ça me va parfaitement. Hein, mais parfaitement, comme les Raptors l'année dernière, ils étaient allés chercher un Marc Gasol, un joueur de ce type-là, moi, ça me va parfaitement pour les Nets. Hein, mais
Tiens,
j'ai
par
juste.
exemple, je te le donne en mille. Demain, trade Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen contre Kevin Love. Qu'est-ce que tu fais?
Jamais de la vie, pardon.
Mais de la
C'était
vie.
pas à moi de répondre, mais
Jamais de la
jamais de la vie.
vie. Voilà.
Jamais de la vie. Faut pas. L'autre, il a 100 ans maintenant, Kevin
Mais
Love.
vous
C'est bon.
parlez d'un
Il a un
intérieur
salaire.
de haut niveau
Ah non, mais
qui...
c'est un super joueur.
Voilà.
Dans l'impact.
C'est pas. À un moment, faut pas se trahir non plus. L'identité, il faut y coller. Ce serait dommage. Allez, on peut prendre aussi André Drummond cet été si on veut.
Non, merci.
Voilà, c'est le genre de joueur qu'on veut pas, quoi. C'est
Tiens, je t'en donne un autre un peu plus
ma.
intéressant. Taurean Prince contre Thaddeus Young.
Le retour au percail. Ouais. Moi, je suis pas forcément contre. Thad Young, c'est un joueur qui est vraiment un joueur de collectif intéressant. Il sait tout faire. Intérieur solide. Ouais,
Défense,
c'est.
défense, défenseur correct, rebondeur dynamique, capable de shooter à 3 points, capable de finir près du cercle, vétéran et qui connaît la boutique. Alors, il n'est pas resté longtemps avec Sean Marks parce que c'est le premier joueur qu'il a fait partir. Mais d'ailleurs, c'était pour récupérer les droits de Caris LeVert.
Ouais.
Hein? Mais franchement, il coche aussi beaucoup de cases. Alors, c'est pas Serge Ibaka, physiquement, hein, je parle. Mais c'est aussi un joueur qui est intéressant et qui coûterait, je crois que c'est 12 millions qu'il touche, hein, cette année. Et l'année prochaine, pareil, il avait signé 3 fois 12, je crois que c'est 36 sur 3. Mais ça fait partie de ce type de joueurs qui peuvent être intéressants. Mais effectivement, je préfère amener du joueur de complément avec un salaire correct plutôt qu'une star. Donc après, effectivement, je pense que Joe, t'as l'air d'être un peu convaincu par ce qu'on dit. En fait, je suis pas convaincu qu'une troisième star, ça soit pas plus une épine dans le pied des deux premières.
Moi,
Dans le sens où.
je suis pas focalisé là-dessus. Moi, de toute façon, moi, je vous dis, moi, je suis focalisé sur une chose, c'est effectivement améliorer le secteur intérieur. Après, que ce soit une star ou pas, c'est ça, c'est autre chose. Mais moi,
Ah
je
bah aujourd'hui,
un peu.
sachant que ton secteur
quel
intérieur,
joueur
il
à
va déjà
l'intérieur?
être, ton secteur intérieur, il est déjà augmenté dès l'année prochaine par le retour de Kevin Durant.
Oui, mais moi, c'est vraiment un vrai 5, quoi. Un vrai 5 qui pourrait, genre, qui pourrait vraiment faire face à, je te dis, encore une fois, un mec comme Joel Embiid ou comme on le disait là tout à l'heure, un Serge Ibaka contre nous. Il nous avait mais explosé dans la raquette ou bien face à Anthony Davis. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ou un Karl Anthony Towns. Donc, moi, j'ai besoin vraiment d'un mec qui soit aussi solide.
Malheureusement, ouais, les 5, c'est en voie de perdition en NBA. Déjà, les 5 costauds, très costauds intérieurs. Là, maintenant, c'est des 4 qui vont jouer 5, qui vont s'écarter. Alors, maintenant, on a même PJ Tucker, il arrive à jouer 5. Donc, n'importe qui peut jouer 5, apparemment. Mais aller prendre qui? C'est ça la question. Il n'y a pas tant de solutions que ça. Est-ce qu'on va. On va aller chercher un joueur qui nous apporterait une vraie plus-value entre, alors qu'on a Jarrett Allen et Dede Jordan, qui, soit dit en passant, est très bon depuis quelques matchs. J'aime beaucoup ce qu'il apporte depuis quelques matchs. Donc, je suis pas sûr. Je suis pas certain.
Pour vous donner un ordre d'idée sur la saison, je parle bien sur la saison entière, il y a une stat qui s'appelle le pourcentage de rebonds. Donc c'est plutôt intéressant, c'est sur le nombre de rebonds concédés par une équipe, que ce soit offensif ou défensif, le nombre qu'elle en récupère. Les Nets sont 8e NBA avec 51,2% de chances de récupérer le rebond. Un ordre d'idée, les meilleurs, c'est Milwaukee à 52,3%. Voilà, le pire étant les Wizards avec 47,9% de chances de récupérer un rebond. Alors effectivement, c'est souvent aux alentours des 50%. Mais c'est quand même pour dire qu'aujourd'hui, on se plaint d'un manque au rebond chez les Nets. Je suis pas sûr que ça soit réel, en fait. Je pense, et ça, c'est. On a eu une super discussion avec j'ai oublié son prénom, il va m'en vouloir, Simon de SoFoot, qui est très actif sur Twitter. Et il me disait, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas de 4 type Aaron Gordon aux Nets. Je lui dis, mais tout simplement pour deux choses. Déjà, Kenny Atkinson ne veut pas jouer avec un vrai poste 4, comme on en connaît à l'ancienne. C'est pas son truc. Il veut jouer avec deux ailiers, ce qui sera le cas quand il aura Kevin Durant. Et ensuite, à l'intérieur, Kenny Atkinson ne joue quasiment pas au poste. Il a eu Brook Lopez, qui était un super joueur au poste, qui lui a demandé de s'écarter, lui a fait travailler le shoot à 3 points. Aujourd'hui, je pense
Ça a
très
plutôt bien
honnêtement,
réussi.
bien sûr, et Brook Lopez d'ailleurs. Je pense qu'il a enfin la reconnaissance qui lui est due depuis qu'il est parti à Milwaukee. Parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que les gens découvrent que c'est un joueur de basket. Ce qui est dommage parce que pendant des années au Nets, il a fait une partie de ce
Mais
qu'il fait à
super.
Milwaukee. Et sur les dernières années avec Kenny Atkinson, il a été incroyable. Mais je pense que l'utilisation que Kenny Atkinson fait de ses pivots, d'ailleurs on le voit, hein, les deux, Jarrett Allen et DeAndre Jordan, tournent quasiment à 3 passes de moyenne cette saison. Donc, il a une utilisation qui est très point center, c'est-à-dire que c'est des pivots qui jouent beaucoup tête de raquette pour les écrans, pour les meneurs, de façon à leur libérer la raquette. La force des Nets, c'est son secteur extérieur, c'est ses guards. C'est pour ça aussi que l'an dernier, Kenny Atkinson jouait avec Spencer Dinwiddie, D'Angelo Russell et des fois Caris LeVert en même temps sur le terrain, et il appelait ça son serpent à 3 têtes. Je pense qu'aujourd'hui, le débat du secteur intérieur des Nets est potentiellement un faux débat. Parce que la force de cet effectif-là, c'est ses ball handlers, c'est ses guards, et que l'année prochaine, quand tu auras Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Joe Harris capable d'être une menace à 3 points, qu'on aura récupéré un troisième meneur, qui sera vraiment un troisième meneur et qui sera pas Theo Pinson, on aura aussi du poids, que Kevin Durant pourra driver, écarter, sanctionner à 3 points, sanctionner mi-distance. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye de juger un effectif et de dire attention, il faut renforcer tel poste, tel poste, tel poste. Je vais presque dire du vent, parce que la réelle valeur de cet effectif, on pourra le voir qu'en début de saison prochaine. Et je pense que Les joueurs qu'on a ciblés tout à l'heure, enfin Moussa, Pinson, Kourouch potentiellement, c'est ces joueurs-là en fait où il faut amener de la profondeur. Je pense qu'honnêtement, mis à part peut-être Taurean Prince qui lui a intérêt à se ressaisir l'année prochaine, même s'il aura un rôle très différent, je pense qu'il sera plutôt cantonné au poste 3, Taurean Prince l'année prochaine. Mais je pense honnêtement que on a une critique qui est faite de ce qu'on voit sur le terrain, mais qui ne sera pas représentative de ce qu'on aura et ce qui va nous être présenté de la saison prochaine, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat qu'on a là, entre guillemets, c'est pas un peu une fausse route parce qu'on se base sur quelque chose qu'il y a à l'instant T, sans prendre en compte certaines variables qui sont non négligeables?
Ah, et puis, le but aussi, c'est pas de mettre Kenny Atkinson en galère. C'est ajouter des maillons forts, on va dire, à l'effectif. C'est aussi des personnalités, c'est aussi des forts égos, des caractères parfois bien trempés et difficilement supportables. Donc, le but, c'est aussi de mettre notre coach dans les meilleures dispositions. Je pense que ça va peut-être aider Joe pour sa transition. Ça, je déborde peut-être un peu. N'hésite pas à me dire si besoin. Mais voilà, le but, c'est de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il arrive à coacher le mieux cette équipe. On n'a pas envie que ce soit je sais pas, un Tyronn Lue qui fasse rien et qui écoute juste ses leaders. Ce n'est pas le but. Je pense que c'est un coach qui est doué. Je pense que c'est un coach qui a plein de choses à apporter à ses joueurs et qui a l'air d'être assez respecté. Donc voilà, ne nous mettons pas en difficulté et ne brûlons pas les étapes.
Alors voilà, transition toute trouvée. Merci Thomas.
C'était avec plaisir.
On va finir ce podcast, ces 10 dernières minutes de podcast, en parlant de Kenny Atkinson. Donc, que certains critiquent pour sa gestion du money time, du fait que parfois, effectivement, et où certains reprochent sur certains systèmes, que ce soit pour le joueur à risque, comme tu en parlais tout à l'heure, Quentin, ou bien la surutilisation de notre ami Taurean Prince. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez les critiques? Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Ou pas du tout? Vous pensez que vraiment Kenny Atkinson est l'homme de la situation?
Je t'en prie, Thomas, vas-y.
Bah écoute, moi je vais être très clair. Ça me gonfle d'entendre toutes ces critiques sur Kenny Atkinson, les mêmes qui l'année dernière le portaient tout en haut des meilleurs, des coachs NBA, un des meilleurs de sa génération. C'est un super coach. On a la chance d'avoir un gars qui a des idées, qui tente des choses, qui a des principes de jeu, qui a des. Enfin, déjà, il sait ce qu'il veut. Et ça, déjà, c'est une plus-value. Ce qu'il a fait l'année dernière avec l'effectif qu'il avait, c'est incroyable. Il a apporté un espèce d'état d'esprit de warrior qui est indéniable. Cette année, il a plus de mal, mais comme tout le monde, il apprend. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Donc, laissons-lui le temps aussi d'apprendre. Il va gérer deux super, voire immenses stars l'année prochaine. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup géré Kyrie Irving cette année, hein, avec le peu de matchs qu'il a fait. Voilà, on le jugera à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est trop tôt. On va pas le brûler sur le pilori parce qu'il a raté 2-3 coachings en fin de match. Voilà, il apprend. On a la chance qu'il soit hyper consciencieux, hyper sérieux dans ce qu'il fait avec des principes de jeu. Et ça, pour ça, je lui dis chapeau et on continue avec lui. Faisons-lui confiance.
Alors moi, en début de saison, je t'avoue que j'avais quelques doutes parce que je voyais dans les premiers matchs, j'avais l'impression qu'il était complètement dépassé par cette situation. Je trouvais qu'il avait du mal un peu à vraiment. On avait l'impression vraiment qu'il cherchait à l'image de toute l'équipe, hein, mais que lui tout particulièrement et que je voyais son côté inexpérimenté face à un Kyrie Irving, face à DeAndre Jordan. J'ai l'impression qu'il était dépassé par tout ce que représente aujourd'hui les Nets, quoi, tu vois, et toute la hype qu'il a pu avoir au cours de l'été après la free agency. Là, je trouve que depuis quelques matchs, effectivement, je trouve que l'équipe joue mieux. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence même dans le coaching, dans les turnovers, dans la gestion des joueurs. Je trouve qu'on retrouve un peu en plus de notre allant collectif. Et puis, tout à l'heure, c'est ce que disait Quentin, qui, je pense, va totalement abonder dans mon sens. c'est qu'il faut être conscient quand même que les Nets, déjà, il a fait des miracles l'année dernière avec cet effectif fait à la base. Hein, je ne dis pas que l'année dernière c'était le cas, mais à la base, c'est une équipe faite de briques et de brocs avec des petits jeunes, des paris au cours de la draft, des mecs qui étaient en G-League comme Jordan Whitney, un Jared Dudley qui était raillé pour son surpoids. Et je peux quasiment tous les citer, hein, Demaré Carroll. Qui était aussi en perdition. Enfin bref, il a réussi avec cette équipe effectif de briques et de brocs à en faire une des équipes les plus hype de la NBA au point de réussir à attirer comme ça Kyrie Irving. Et là, je trouve que même cette saison, alors que tu n'as pas Kevin Durant, tu n'as pas Kyrie Irving, tu as eu 8 semaines d'absence pour Caris LeVert, tu as eu David Nwaba qui s'est blessé, tu as eu 3 semaines de blessures récemment pour DeAndre Jordan. Ton effectif, c'est basé sur Spencer Dinwiddie, Garrett Temple, Joe Harris de temps en temps, et puis c'est tout. Et pourtant, tu arrives à être quand même toujours en playoff. Comme l'a dit tout à l'heure Quentin, normalement, tu devrais être en playoff. Tu dégages un jeu qui est pas mal depuis quelques matchs. Tu es au coude à coude à chaque fois. Hier, on perd d'un point contre Orlando, tu perds d'un point contre Toronto, tu perds en prolongation contre Philadelphie. Même contre les Lakers, où, comme je disais tout à l'heure, j'avais la chance d'être au stade, enfin au Barclays Center. On a tenu tête aux Lakers pendant trois quarts temps et après on explose dans le quatrième. Et je trouve que franchement, cette saison qui est vraiment compliquée par la pression médiatique et aussi par les blessures et les hauts et les nombreux aléas, il fait franchement un vrai, vrai beau travail, quoi. Désolé pour ce tunnel, mais je tenais à le dire en tout cas que vraiment, faut absolument pas brûler tout ce qu'on a. Et franchement, il faut s'estimer heureux d'avoir un entraîneur avec les compétences que peut avoir Kenny Atkinson. Toi, Quentin, qu'est-ce que tu en penses de ton côté
Moi, je vais vous lire un tweet que j'ai vu passer, que j'ai relayé il y a 10 jours. Stephen Curry et Klay Thompson sont blessés. Golden State a le pire bilan de la ligue. La réaction des fans des Warriors, qu'est-ce que Kerr est censé faire? Ses superstars sont blessés. Kyrie Irving et KD sont aussi blessés. Brooklyn est aujourd'hui 7e. D'accord? Avec un bilan négatif mais playoffable. Et on entend, Kenny Atkinson est le pire coach. Virez-le. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui demandent la tête de Kenny Atkinson. Complètement hors contexte. Oui, les Nets jouent moins bien que l'an dernier. Oui, les Nets déçoivent peut-être les gens qui s'attendaient à ce que ça soit le deuxième de l'Est et que ça aille en finale de conférence cette année. Il y a aussi des gens qui sont peut-être sous acide aujourd'hui. Il y a, je pense, aujourd'hui des gens qui pensent réellement que l'effectif, comme il était taillé cette saison, avec tous les blessés qu'il y a eu et tous les éléments que tu as super bien détaillés, et qu'on a eu le temps de détailler autour de ce podcast, pensez réellement que les Nets seraient quand même une équipe qui serait un prétendant au top 5 à l'Est. Eh ben non, je suis désolé. Aujourd'hui, les Nets ont perdu des vétérans. Tu parlais de Jared Dudley, tu parlais de Demaré Carroll. Tu peux mettre Ed Davis dans le lot, même si DeAndre Jordan compense.
Mais en plus, dans beaucoup de matchs, on a été quand même au coude à coude et on perd. Le premier match contre les Timberwolves, on le perd en prolongation. Puis le match
32
contre le
matchs.
Minnesota, on se prend un buzzer beater. Enfin, on est à chaque fois au coude à coude.
Ouais,
Avec
tu peux
une
mettre,
équipe.
tu peux mettre
C'est
Memphis aussi.
dessiné.
Tu peux mettre
ah, c'est
Memphis
même,
aussi avec
c'est
celui
même
de
plus
Jay
équipe, moi, je
Crowder
pensais
qui
à.
est non qui est, qui est la stat donc
Je
que
pensais à
Thomas
Memphis, souvent.
la stat que Thomas relançait en début de podcast, à savoir les Nets qui ont perdu 17 matchs dans le Money Time cette saison. Faut savoir que les Nets ont eu 32 matchs qui se sont joués dans les 2 dernières minutes avec des écarts inférieurs à 5 points.
Incroyable.
15 victoires, 17 défaites. Avec l'effectif qu'on connaît et des craquages, tu parles du 3 points de Jet Crowder qui vient de nulle part. On peut parler aussi de contre Minnesota, effectivement, Kyrie Irving qui foire sa dernière possession en glissant. Et encore, il n'est pas loin d'aller chercher la win.
J'ai pas l'envie
Enfin, il y en a un paquet des matchs qui échappent aux Nets sur des fins de match complètement non maîtrisés ou des écarts de 10, 15, 20 points qui sont laissés échapper. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence entre une bonne saison et une saison décevante, c'est ce qui nous arrive cette saison, c'est des fins de match perdues, par manque de lucidité, parce qu'on tire trop sur des joueurs sur lesquels on devrait moins tirer si on avait un effectif au complet, sur des joueurs qui sont pas au niveau pour les raisons qu'on a pu évoquer. Je pense aujourd'hui que le procès qu'est fait Kenny Atkinson est un faux procès et que on devrait plutôt s'estimer heureux d'avoir quelqu'un qui a réussi à mettre en place depuis son arrivée une vraie structure, une vraie identité de jeu, à développer Spencer Dinwiddie, Joe Harris. Cette année, on n'en a pas parlé, mais Timothée Luwawu-Cabarrot réalise une super saison alors qu'il vient de nulle part. C'était un two-way contract qui a réussi à être signé sur plusieurs saisons et qui fait ses matchs. Aujourd'hui, Timothée, il fait ses matchs. Donc, je pense vraiment que Kenny Atkinson, aujourd'hui, c'est un faux procès et qu'on ne parle pas de ce dont il faudrait parler et que c'est facile de taper sur la tête du coach. J'ai l'impression qu'on a un supporter moyen de Ligue 1 qui, à chaque fois que son équipe n'est pas capable d'aligner trois passes, c'est forcément de la faute du coach. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas sûr que ça soit réellement ce qu'il faudrait cibler, en tout cas.
Oui, et puis même collectivement, je trouve que là, collectivement, c'est cohérent. C'est cohérent, je te dis, depuis une dizaine de matchs, une douzaine de matchs, sur la série que tu disais tout à l'heure. On a retrouvé une vraie identité. Je trouve que même on retrouve un certain allant en plus, collectif. Et puis voilà, là, j'ai sous les yeux, on a dit tout à l'heure qu'Kyrie Irving n'a joué que 20 matchs. Caris LeVert n'a joué que 31 matchs, enfin, c'est quand même, et Kevin Durant n'a joué zéro match. En fait, au début de la saison, ces trois joueurs-là, ce sont tes trois premières options offensives. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ces trois-là, il y en a un qui a raté la moitié de la saison, l'autre n'a joué qu'un tiers, et le dernier a joué aucun match. Et on est quand même playoffable, on est quand même au coude à coude dans beaucoup de matchs. Tu l'as dit tout à l'heure, sur 32 matchs sur 56, plus de la moitié des matchs. Ça se joue dans le money time. Enfin, c'est quand même. Je trouve que certains supporters sont quand même vachement. Je sais pas, vachement. C'est même plus de l'exigence là. C'est presque du mépris là pour le coup.
Oui, mais c'est aussi parce que les gens sont dans l'instant présent. Le problème, c'est que la NBA, c'est pas ça. La NBA, c'est un cheminement. La NBA, ça prend du temps pour être une bonne équipe. Hein. Il n'y a qu'à voir les derniers champions en titre. Hein. Il n'y a pas de mystère. Toronto, ça a pris du temps. Les vraies équipes où c'est solide, où ça a été bien construit, bien réfléchi, ça a pris du temps. Donc les Nets ne dérogeront pas à cette règle. Et ce n'est pas en prenant des décisions complètement hâtives et injustifiées parce qu'ils se montrent totalement au niveau de la NBA et de la franchise que ça va résoudre quoi que ce soit. Donc ça, en fait, c'est insupportable à entendre. C'est toujours pareil et comme le disait Quentin, c'est facile, c'est toujours le coach, c'est toujours pareil.
Et encore une fois, tu disais Thomas que la NBA ça s'apprend et ça prend du temps la construction d'une équipe. Il y a une info qui est sortie cette semaine dans les médias qui est que les Nets ont commencé à approcher Kevin Durant réellement dès 2016, donc dès l'arrivée de Sean Marks. Donc je pense que ce qui se passe en ce moment c'est préparé. Il y a encore des étapes. Ces joueurs-là ils ont signé 3 plus 1. Donc effectivement la première saison est un coup d'épée dans l'eau. Effectivement si tu regardes la masse salariale ça fait mal. Mais aujourd'hui, le plan des Nets, il se base sur les deux, voire trois prochaines saisons. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore sur la même saison que l'an dernier, une saison de transition vers un objectif qui est plus gros. Et je pense qu'il faut arrêter de penser toujours court terme. Ça, c'est le problème du supporter, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est la culture de l'instant. Kyrie Irving met 54 points, il est fabuleux, il se blesse le match d'après, c'est un blaireau. Je pense qu'il faut apporter de la mesure, et c'est là aussi je trouve où on a un réel intérêt, nous, c'est d'essayer d'apporter cette mesure. Alors des fois on peut réagir un peu à chaud sur les réseaux sociaux, certaines choses, etc. Mais là qu'on a le temps de se poser, etc., je pense que c'est bien de rappeler aux gens que il faut voir un peu plus long terme sur les Nets par rapport à ce qu'ils proposent cette saison. Et que c'est pas les 20 prochains matchs qui vont dicter si les Nets seront champions l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans.
Que tu as absolument tout dit et je suis totalement dans ton sens. Thomas, toi.
Idem. Moi, je suis totalement d'accord sur tout ce qui a été dit. Puis, je crois que c'est un des premiers débats où on est vraiment d'accord tous les trois, donc c'est bien.
Ouais, voilà. Je pense que c'est même le meilleur moyen de conclure ce podcast en étant tous les trois d'accord et Et comme toujours, en ayant quand même une note de positif, parce que c'est quand même positif ce que l'on vit en tant que supporter des Nets, alors qu'on a vécu des années de galère. Là, de se dire qu'on est quand même, on irait quand même en playoff, sans nos meilleurs joueurs, et qu'on a un potentiel qui est absolument monstrueux. Voilà, prenons cette année comme une année de transition, une année pour construire, et puis voilà, on ira, j'espère, en playoff, et puis ça sera que du bonus. Enfin, pour l'année prochaine, où là, on sera vraiment compétitif. On est d'accord sur tout ça, messieurs?
Totalement.
Eh bien, écoutez, bah merci en tout cas pour ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas en tout cas à réagir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis avec le hashtag NetsTalk, on vous répondra, on débattra si vous êtes d'accord ou non sur la saison des Nets, sur Kenny Atkinson, même sur Joel Embiid, si vous le voyez bien venir aux Nets à défaut de Quentin. Merci à vous tous et puis à bientôt pour un nouvel épisode sur Nets France. Ciao les mecs.
Ciao les
ciao,
gars.
Ciao.